Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit que c'était le Démogorgon.
Ça veut dire qu'on est piégé, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Bonjour à tous,
salut.
J'ai plagié cette intro.
Ça y est, j'ai épuisé toutes mes idées d'intro. Alors, c'est assez naturellement que je vous fais le coup classique de la page blanche. C'est évident. Mais comme j'essaye de pas être trop un escroc qui tire en longueur pour atteindre les 30 secondes d'intro contractuelle avant de démarrer cet épisode, je m'arrête ici. On a entendu vos avis concernant la durée toujours plus longue des épisodes, qui s'approche plutôt presque des 2 heures parfois. Alors on a retravaillé le conducteur pour vous proposer un épisode plus court cette fois-ci. Donc, au programme ce mois-ci, Shadow and Bone, l'adaptation Netflix de la saga littéraire de Les Bardugo, la fin de la saga Rocky et sa suite Creed. Et enfin, le sujet du mois, la comédie horrifique post-apocalyptique de Netflix. C'est vraiment comme ça que Wikipédia décrit le film Love and Monster. Mais d'abord, commençons par le Hypito. Je vois, Mathilde, que tu as un Hypito ce mois-ci.
C'est un Hypito de mois précédent.
J'ai pas bien compris le concept, mais d'accord.
Et je sais plus quand exactement j'avais parlé du fait que Heartstopper d'Alice Osman allait être adapté en série sur Netflix. Et du coup, on a pu découvrir ce mois-ci le casting de Heartstopper. Du coup, on a pu découvrir Charlie et toute la petite bande en chair en os. Et les acteurs sont trop mimes. Ils ont l'air d'être lycéens. C'est cool. Et moi, j'ai hâte de découvrir cette série. Voilà. Je crois qu'ils sont en train de tourner là actuellement. Ou alors, ils ont fini de tourner. Je sais pas, mais ça a l'air trop, trop bien. Donc, j'ai hâte de découvrir ça.
Très bien. Il y a une date de sortie?
Nope.
Non.
Par contre, en mai... je crois que c'est le 14 mai, mais à vérifier, le tome 4 du roman graphique Heartstopper sort chez Hachette. Voilà. Si vous voulez découvrir cette saga littéraire, si je peux dire, ces romans graphiques, bah, vous pouvez. Ils sont trop cool.
Très bien. Bah, oui. C'est une bonne information. Moi, j'ai un Hypito. C'est la sortie... Alors, ce mois-ci, je n'ai qu'une seule thématique. C'est la sortie, l'arrivée plutôt, de Creed, des 2 épisodes de Creed sur Prime Video. Et donc, je me réjouis parce que toute la saga Rocky est maintenant dispo en streaming. C'est une formidable nouvelle pour découvrir cette formidable saga. Mais on en reparlera plus tard.
Et tout est sur Prime Video ou les autres sont ailleurs?
Non, tout est sur Prime Video pour le moment. voilà, Damien, pas de Hypito.
Ben non, rien ne me hypite.
Damien le touriste, bonjour.
J'ai pas mis de lunettes de soleil.
T'es en short. Très peu. Et ben voilà, merci. Passons maintenant aux séries. Commençons par une série qui avait commencé en mars, qui s'est prolongée en avril et qui s'est terminée en avril. Bah oui. Sur Disney+, il s'agit de la première saison de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Mathilde et moi, on a tout regardé, les 6 épisodes. Damien, tu as un peu traîné en chemin.
J'ai vu la moitié.
La moitié. On va quand même faire un petit retour dessus. On va essayer de pas trop en dire pour ne pas gâcher la surprise de Damien, mais... on va en parler malgré tout. Mathilde, qu'est-ce que t'en as pensé?
J'étais contente de retrouver le soldat d'hiver. Voilà. Et Falcon.
On peut en parler un peu plus. Hein. Là, pour l'instant,
ouais. Non. C'était. Bah, c'était. Moi, j'ai. C'était pas ma série Marvel de prédilection. Enfin, c'est. Ouais. J'ai pas trop aimé. Enfin, c'était moyen. Moyen bien. Moyen. Moyen. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas le contraste avec WandaVision qui fait que.
Ouais, j'étais plus. J'ai préféré WandaVision. Après, il y a des thématiques super bien qui sont abordées dans cette série. Genre. Le fait que Sam soit, on va dire, l'héritier de Captain America et le fait qu'il soit noir, le fait que ça pose peut-être des problèmes pour certains, ce genre de choses, ça, c'est des thématiques qui étaient pas mal. Après, c'était peut-être un peu tout embrouillé avec d'autres choses, n'est-ce pas?
Un peu, c'est vrai.
Et puis moi, j'ai pas aimé Sharon Carter, donc voilà. J'ai trouvé que le personnage n'était pas développé, qu'on n'y croyait pas du tout, et que ses motivations, on dirait une gamine qui est fâchée. Donc, j'ai pas du tout apprécié cette partie-là. Par contre, j'aime bien les deux protagonistes principaux, et on aurait peut-être pu je trouve qu'au final, l'histoire ne tourne pas vraiment autour d'eux. Ça tourne autour de ce qui se passe pour le pays, et ce genre de choses. C'est très politisé. Et voilà, je sais pas.
Moi, j'ai trouvé que ça se perdait un peu dans trop de thématiques et de trucs. J'aurais préféré que ça se concentre sur l'héritage de Captain America, le nouveau Captain America que le gouvernement impose à tout le monde, le dilemme de Sam de savoir est-ce qu'il est digne du bouclier ou pas. J'aurais préféré que vraiment on se concentre là-dessus avec éventuellement une mission un peu en ligne de en fil rouge, mais un truc très secondaire. Et là, c'est trop au cœur des intrigues. Ça m'intéressait pas spécialement. Autrement, je suis un peu d'accord avec toi, Sharon Carter. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle fout là, en fait. Et un peu comme Zemo, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fout là. C'est un petit peu ou George Batroc, le méchant qui est dans l'avion au tout début.
Ah ouais, non mais.
Du coup, j'avais plus l'impression qu'en fait, on essayait de nous faire un espèce de super best-of de la trilogie Captain America. En faisant revenir tous les trucs qui avaient marché, et sauf que ça marche pas trop. C'est un peu facile. J'ai une petite question juste pour finir et passer au suivant. Il est où, selon vous, Steve Rogers? Il est mort? Il est à la retraite? Il est sur la Lune?
Je crois que s'il était vivant, il aurait plus de 100 ans. Il aurait 110 ans.
C'est un super humain. Peut-être que ce monsieur vit très longtemps facilement.
Je suis pas sûre. Ah, remarque, l'autre personnage qui a reçu le sérum est toujours vivant, donc ça pourrait être possible. Je sais pas quel âge il a.
Et il a un bon 80 ans.
Ouais. Donc je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas important, moi, je trouve, parce que...
Non, c'est pas important, c'était
par
plus
contre,
un petit
le
trait
fait que Sharon, du coup, Carter, elle soit toujours vénère ou je sais pas trop quoi, alors qu'au final... je comprends rien... Est-ce que, du coup, ça s'est passé dans notre ligne temporelle, ce qui s'est passé avec Captain America ou pas? Le fait qu'il ait vieilli, c'est et tout dans la partie, tu vois ce que je veux dire, après Endgame.
Après Endgame, il y a un vieil... Dans cette série, il y a un vieux Captain America qui est quelque part. Moi, je
d'accord.
pense qu'il est mort. J'aimerais bien qu'il soit mort.
Ça voudrait dire qu'on est d'accord que sa tante à Sharon Carter, du coup, elle a fait sa vie avec quelqu'un.
C'est chelou.
Du coup, elle sait très bien qui c'est. Enfin, faut remettre les choses dans le contexte. À
ça
moins
fait
que...
partie des trucs dont
enfin,
on n'aura jamais
ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Profitons-en pour passer à une série dont on va parler 3 secondes. C'est sorti en mars, évidemment, sur Netflix. J'ai regardé tout. Mathilde a regardé vite fait. Damien, tu as bien fait de ne pas regarder.
On ne sait même pas ce dont on parle.
On parle de Qui a tué Sarah. C'est 10 épisodes, beaucoup trop. Et qu'est-ce que c'était nul, mais vraiment, oh là 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 là. Alors, ça, rapidement, un résumé très très rapide, mais très exhaustif. Ça parle de meurtre, de complot, de mensonges, de trahison, de mafia, de prostitution, de trafic d'êtres humains et de sexe.
De quoi?
J'ai oublié des trucs.
Ah non, mais ça parle surtout de beau-père qui couche avec sa belle-fille.
Ah oui.
Bon. Alors ça, c'est récurrent. C'est une histoire récurrente.
On n'était pas non
plus... Et qui leur fait des enfants, parce que c'est toujours mieux.
Faisait de la surenchère tout le temps. Mathilde, je crois, j'aurais dû compter. Mathilde a passé son temps à dire « c'est de pire en pire ». Vraiment, j'aurais pu faire un bingo.
À chaque fois qu'il allumait la télé, on regardait ça. Moi, je faisais autre chose. Je jouais à Animal Crossing. Je faisais du coloriage, du dessin. Et à chaque fois que je levais la tête, c'était pour dire « non, mais c'est trop, là ». Non, mais encore plus, toujours plus. Parce que c'était... Ouais, c'est de la surenchère. J'ai dû vraiment regarder 3 épisodes. Mais après, c'était n'importe quoi. C'était vraiment des trucs horribles qui arrivaient. Vraiment. Ça avait aucun sens. Je pense que les gens dans cette série, en fait, c'est tous des fous. Il faut les mettre en hôpital psychiatrique. Voilà.
Au moins.
C'est tout.
Moralité, ne plus jamais se laisser influencer par les commentaires Twitter. Et pour info, une saison 2 arrive.
Ce mois-ci.
Allez mourir.
On va pas
sans
regarder.
Moi. Passons maintenant à une série bien meilleure, sortie elle aussi sur Netflix. Alors c'était un épisode par semaine, donc ça commence en janvier et ça s'est fini en avril. C'était la saison 2 de Snowpiercer. Qu'est-ce que, Mathilde, tu en as pensé ?
Moi, j'avais vachement aimé la saison 1. J'avais vraiment été trop emballée par cette adaptation en série. Et j'ai trouvé que la saison 2 était vraiment plus effrayante. Moi, j'étais... Ouais. Il y avait plein de moments, plein d'épisodes où j'avais les mains sur les yeux en mode « Non, j'ai peur !» Et voilà, ça faisait très peur. Que ça soit... C'était psychologiquement dérangeant aussi. Et voilà. Sinon, au niveau de l'intrigue, c'était bien. On avait envie de reconnaître la suite chaque semaine.
Ouais.
Et j'aime bien la fin de la saison... Peut-être il y a un espoir qui plane pour des choses positives, peut-être pour cette saison 3, ou peut-être pas, parce qu'on est quand même dans des trucs vachement négatifs pour le moment, que ce soit la saison 1 et la saison 2, donc bien.
Moi, j'ai beaucoup plus aimé que la première saison que j'avais regardée, mais sans vraiment être foufou dedans. Et là, j'ai trouvé que c'était plus haletant, plus prenant. Que les intrigues étaient plus intéressantes. Enfin, j'ai beaucoup plus aimé. Et Sean Bean, qui interprète Joseph Wilford, le grand méchant de la série, est vraiment terrifiant.
Il fait trop badé.
Il fait trop badé. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. On attend la saison 3.
Esprit sensible, s'abstenir.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, il y a pas mal d'épisodes qui parlent de suicide, si on peut dire.
Et puis... c'est vrai qu'il y a ce petit message en haut à chaque fois.
Ouais.
Le disclaimer suicide.
Et il y a un épisode avec Mélanie
ouais.
qui se passe dans vraiment en mode post-apocalyptique où elle est toute seule hors du train.
Survival.
En mode survivor, ouais. Et vraiment, moi j'étais vraiment flippée. C'est vraiment flippant. Voilà.
Bah très bien. Passons ensuite à un animé sur Netflix encore.
Ouais, c'est moi qui l'ai regardé, c'est Dota Dragon's Blood. C'est une série qui est sortie en mars 2021, de 8 épisodes de 20 minutes, et c'est l'adaptation en animé du jeu vidéo Dota 2. Moi, j'ai jamais joué, je sais pas si quelqu'un connaît ici.
Non, après il est connu comme jeu de un peu en e-sport, mais jamais joué non plus.
Ouais, bah j'ai jamais joué, et en tout cas, j'ai eu envie de regarder l'animé, parce que je trouvais que visuellement, ça, c'était sympa. On se retrouve dans un univers médiéval fantastique avec des elfes, des dragons, des humains, tout ça.
J'ai compris des zèbres.
Non, des elfes. visuellement, c'est très, c'est plutôt classique, mais moi j'aime bien cette façon d'animer et j'ai vraiment adoré la bande son. Durant les scènes de combat, il y a des espèces de sonorités synthétiques qu'on retrouve, vraiment étonnantes pour ce genre d'animé médiéval et j'ai vraiment trop aimé. Au niveau du scénario, l'histoire est parfois un peu embrouillée. Y a différentes intrigues. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre le lien entre tout ce qui se passait. Je pense que c'est peut-être le fait que ce soit l'adaptation d'un jeu vidéo. En fait, peut-être que dans le jeu vidéo, le scénario peut être plus facile. Enfin, des fois, on ne se pose pas trop de questions. On fait des quêtes. Et là, le fait de l'adapter, c'est un peu embrouillé. Peut-être que ça ne tient pas trop debout. Donc, à voir s'il y aura une suite ou pas. Mais c'était plaisant à regarder quand même.
D'accord. On ne peut pas trop rebondir parce qu'on n'a pas vu. On va maintenant passer à une autre série animée sur Disney+, cette fois-ci. C'était le marathon de ce mois-ci, finalement. J'ai regardé un petit peu. C'est... Bon, vas-y.
Tu c'est Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Alors, on a déjà regardé la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Je tiens à dire que la saison 4 est actuellement en train d'être diffusée. Un épisode par semaine, je crois, sur TF1. Mais je n'ai pas regardé parce qu'il faut que je rattrape les films, en fait. Il y a un film qui est disponible sur Disney+, que je n'ai pas vu et j'aimerais bien le voir avant de pouvoir reprendre la série. C'est une série qui date de début... qui a débuté en 2015. C'est une série française, coréenne et, coréenne et japonaise, c'est ça ?
Ouais. Yes.
Moi, ça fait un moment que je vois plein de gens sur Insta et un peu partout me parler de cette série. Du coup, je me suis dit, allez, moi aussi, je vais regarder. On suit le destin de Marinette et Adrien qui ont été choisis pour devenir des super-héros parisiens. Dans chaque épisode, ils sauvent Paris du papillon qui est un méchant. Bon,
le pire nom de méchant du monde.
Le papillon.
Non, je trouve ça cool, moi. Non. Ça change de dark méchant ou des trucs comme ça, tu vois.
C'est un peu, c'est peut-être la saison 1 est un peu redondante. Les épisodes sont construits de la même façon. Le principe, c'est que le papillon akumatise quelqu'un qui se transforme en méchant. Et après, bah, Ladybug et Chat Noir doivent le sauver et tout ça. Donc ça fonctionne un peu pareil. Les animations sont récurrentes et tout ça. Mais plus ça va et plus il y a des évolutions de personnages et d'histoires qui font que la série devient un peu plus adulte, si je peux dire. Et elle offre vraiment des épisodes bouleversants. Moi, j'ai été j'ai pas pleuré, tu vois, mais j'étais très waouh, ouais, pas loin, devant l'épisode de... Il y a un épisode de la saison 3 qui s'appelle Chat Blanc. Et il est incroyable cet épisode. Regardez-le. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais il est incroyable.
Est-ce que les yeux qui coulent, c'est pleurer ?
Peut-être. Ouais. Mais les protagonistes sont super attachants. L'animation est jolie. Le générique reste dans ma tête tout le temps. J'ai envie de danser dessus et tout. Et moi, j'adore. Voilà. Je sais pas ce que Emilien, t'en as pensé. T'as regardé un petit peu de temps en temps.
J'avoue que le début m'a pas emballé justement parce qu'il y avait cette répétitivité des épisodes. C'était toujours la même chose. Il y a un personnage qui est vexé, donc il se fait akumatiser par le méchant et Ladybug et Chat Noir le sauvent, le papillon rage et épisode suivant, c'est un peu pareil. Mais effectivement, après ça se complexifie et c'est très intéressant. Par contre, je suis un tout petit peu moins dithyrambique sur l'animation. Elle est très jolie, c'est très inspiré, c'est très 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 riche, mais voilà, ça manque un tout petit peu de budget. Enfin, Paris est vide, par exemple, il y a très peu de gens. Enfin, mais bon, on va pas les blâmer. C'est une série en partie française, donc on va se réjouir d'avoir une série phénomène comme ça. Mais voilà, et effectivement, j'avais plus de plaisir à regarder un petit peu la saison 3 qui est jusqu'ici la meilleure. Ouais. Et la moins enfantine, mine de rien.
Et en plus, il y a des pistes d'évolution prometteuses, par exemple, avec des personnages qu'on voit adultes. Enfin, qu'on voit, si, jeunes adultes, on va dire. Donc, on pourrait peut-être penser que dans une ou deux saisons, on pourrait retrouver ces personnages adultes. Et moi, ça me botterait vraiment qu'ils fassent ça. Après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, on verra. Mais voilà, c'est vraiment sympa. À regarder, même si ça paraît enfantin, regardez, c'est trop bien.
Non, mais on est un peu sur le même phénomène que les séries Star Wars, c'est que c'est très 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 enfantin au départ, et puis ça se rend compte que ça a un potentiel hyper intéressant, donc du coup ça
crée
devient
des
plus adulte.
Des vraies communautés de fans, enfin, sur internet c'est vraiment incroyable le nombre de fan art, de gens qui écrivent des fanfics ou des trucs sur Miraculous, c'est incroyable, enfin moi j'aime bien. Tout cet engouement autour de la série.
Terminons avec une troisième série d'animation, retournons au Japon d'ailleurs, avec La Voix du Tablier qui est sortie sur Netflix.
Ouais, alors c'était le Hypito de Damien le mois dernier, mais est-ce que Damien a regardé ?
J'ai vu 2 minutes tout à l'heure.
Ah bah voilà, bravo, bravo. Et par contre, moi je me suis tapé les cinq épisodes en me disant...
Se taper, c'est vraiment le mot.
en me disant, ah, faut que je la regarde, parce que si on doit en parler quand même. Alors j'ai regardé
Au final, t'aurais regardé 2 minutes, t'aurais eu le même avis qu'en ayant tout regardé.
Mais non, je voulais voir s'il y avait de l'évolution.
Ouais, c'est vrai.
Mais par contre, j'ai bien rigolé quand même. Quand j'ai vu les passages du chat et que j'ai dit à Emilien qui n'avait pas lu les mangas, et je lui ai dit attends, regarde les passages du chat. sais pas si tu te rappelles, le chat qui veut aller faire ses besoins chez, enfin, chez l'autre chat. Ben voilà, c'était très amusant, très amusant. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé moi, je suis un peu déçue parce que c'est clairement plan pour plan le manga et il n'y a aucun intérêt, en fait. Cette adaptation n'a aucun intérêt parce que elle reprend plan pour plan le manga et il n'y a pas d'animation. Enfin, ça a été très, très, très peu animé et je trouve ça décevant.
Après, ça a peut-être peu d'intérêt dans ce sens-là, mais pour des gens qui sont plus sur Netflix, qui lisent pas forcément beaucoup, et encore moins de mangas, ça peut peut-être les amener de l'autre sens.
Ouais, mais au niveau du rythme, c'est très lent, en fait. Et comme c'est décousu, parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire, enfin, en tout cas, pour le moment...
C'est des sketchs, en fait.
Ouais, c'est un peu des sketchs. Et je suis pas sûre que les gens y regardent. Et ça fait 15 minutes, si on enlève le générique, c'est très, très court, quoi.
Et c'est même pas très beau. Enfin, les dessins sont beaux, mais l'animation est inexistante.
Et non, donc, du coup, on a regardé en VF et c'est con parce que les doublages sont c'est des doublages habituels. Enfin, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien les doubleurs qu'on a en France sur les animaux. Sur les animaux, sur les animés, oulala. Mais le problème, c'est que même les bouches des protagonistes suivent pas.
Il y a trois images de bouche qui sont mises en boucle et voilà.
Compliqué. Voilà, c'était mon avis. Donc déception, heureusement qu'il y avait que 5 épisodes, je me suis dit 5 épisodes c'est pas beaucoup, heureusement quoi.
Mais c'est dommage, parce qu'en plus ça aurait pu être un parti pris le plan pour plan.
Je pense que c'est un parti pris artistique.
En enlevant, ouais mais du coup faut pas mettre d'animation du tout, faut mettre que du son. Et
pourquoi le générique il est animé?
C'est vrai que le générique est plus animé que la série.
Et pourquoi il est aussi énervé? Bon, ça va encore.
C'est pourquoi.
Ça va. Non mais voilà, je suis déçue, déception. Ça arrive pas souvent, mais là, enfin si, avec ce mois-ci, on est déçus.
Par contre, le manga, il est vraiment bien.
Oui, lisez le manga, entre regarder et lire, lisez, quoi. Je trouve que ça a plus d'intérêt.
Passons ensuite alors, et terminons les séries, par le sujet de Mathilde, c'est-à-dire la série qu'elle a retenue plus attentivement que les autres ce mois-ci. Elle en avait déjà parlé le mois dernier, il s'agit de...
Shadow and Bones, la saga Grisha. Je suis pas sûre que c'était comme ça qu'il fallait nous dire. Bon. On dirait qu'on
est chez nous, on fait ce qu'on veut. Hein.
Bon, lançons la générique. La bande son. Oh, c'est pas ça. La bande annonce.
Le Shadowfold. Une cicatrice sur la carte. Qui a scindé notre pays en deux.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je vais m'en sortir. C'est promis.
Pour le détruire, il nous faut un miracle. Vu ce qui s'est passé là-bas.
Nous avons été attaqués. Et ensuite, il y a eu une lumière aveuglante.
Relevez votre manche. Qu'est-ce que vous êtes ? Je veux savoir ce que vous êtes.
Je suis cartographe.
Notre cartographe. Eh bien, vous et moi allons changer le monde.
La bande-annonce est aussi longue que la série. C'est sorti le 23 avril 2021 sur Netflix.
Ça fait 8 épisodes d'environ 50 minutes.
C'est pas mal.
Ouais, non, ça va, ça va.
Qu'en as-tu pensé, alors ?
Alors, avant de commencer et de partir dans des questions incroyables, on va répondre à la seule question qui compte.
L'unique.
L'unique question qui brûle les lèvres de chaque membre autour de cette table. Est-ce que j'ai réussi à lire les 5 romans du Grishaverse avant de regarder la série ?
La réponse est
oui.
Bravo.
Oui. Le vendredi, le jour même, j'ai fini le dernier tome de Grisha. Ce qui faisait que j'avais lu les 2 Six of Crow et les 3 tomes de Grisha.
Sachant qu'on m'avait dit que c'était une très mauvaise idée de lire les supports d'origine avant de voir les adaptations, parce qu'on est forcément déçus. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci ?
Eh ben non.
Ah, formidable.
Non. Ça arrive pas souvent que je dise que les adaptations sont bien. Parce que souvent, moi, je suis avant tout une littéraire. Non, je dis pas ça. J'aime bien les livres.
Le dédain.
Non, c'est pas vrai. J'aime bien les livres. Mais là, pour le coup, c'est un peu comme... comment s'appelait l'adaptation ? Ah, j'ai un gros trou. La Croisée des Mondes.
Ah oui.
Et j'avais beaucoup aimé l'adaptation. Je la trouve vraiment trop bien. Et là, on est dans une réussite.
Mais il y a un esprit Croisée des Mondes.
Ah, applaudissons. Hein,
encore, allez.
Non, il y a un parti pris et c'est bien. Alors, j'avais des doutes sur comment ils allaient faire pour mêler la trilogie et la duologie de Six of Crow en une série. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ils ont bien intégré les personnages de Six of Crow dans l'intrigue de Grisha. Et moi, ça, je suis contente. Si on continue dans les points positifs, les protagonistes de Six of Crow, ils apportent un truc qu'il n'y avait pas trop dans les romans. Les romans de Grisha sont plutôt sombres, ils n'ont pas très positifs et tout ça. Et grâce au personnage de Six of Crow, on a de l'humour, des moments incroyables. Et ça fait du bien aussi de rigoler un petit peu, quoi. Parce que bon, tout n'est pas noir dans la vie. Non ?
Non, c'est vrai. C'est un peu gris des fois.
Et voilà. Et grâce à des personnages comme Jasper, le monde est plus beau. Milo et Jasper forever. le duo incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous verrez. Il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Ça, c'est une invention.
On verra plus tard. Il y a peut-être mieux.
C'est une invention. Je tiens à dire que le personnage, c'est pas un personnage. Milo n'existe pas dans Six of Crow. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont créé... ces personnages n'existaient pas dans Grisha, et ils ont réussi à leur créer des scènes et des moments hippiques qui auraient très bien pu exister dans Grishaverse, en fait. Et je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, tout ce qui se passe avec ces persos, toutes les galères dans lesquelles ils se retrouvent, c'est totalement eux. Je trouve ça vraiment trop bien. Après, au niveau des décors et des costumes, pareil, bluffant.
C'est pour moi une des plus grandes réussites de la série. Visuellement, la créativité visuelle très très belle.
C'est bien que ce soit les costumes des Grisha et puis aussi toute l'inspiration russe qui est autour de Ravka est présente. Moi, j'avais peur qu'ils l'oublient un petit peu et ça marche bien. Et ce qu'ils ont fait visuellement avec le Shadowfall, je trouve ça... C'est beau, c'est bien. Les créatures, comment ils s'appellent ? Les Volkras, impitoyables, moches, comme il faut, ils font bien peur, c'est beau. Enfin, moi, je suis vraiment admiratif. Cette série ne serait rien sans son casting, clairement. Je trouve que le casting est top, les acteurs collent vraiment aux personnages. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, oui, c'est eux, il n'y avait aucun problème. Peut-être Mal, qui est un petit peu... Qui ça passe un peu moins bien parce que dans Grisha il est décrit vraiment comme étant un incroyable beau gosse et tout ça, et d'un côté je suis contente qu'ils aient pas choisi un acteur comme ça parce que il fallait quelqu'un qui soit plus comment dire qui fasse un mec qui soit plus réaliste quoi, enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi ressemble pas trop au Mal du livre. Mais au final, c'est pas plus mal parce que le Mal du livre, moi, je l'aimais pas. Donc,
Et ce Mal-là, on l'aime bien.
Et celui-là, ouais, il est mieux. Il est mieux. Il fait des choix peut-être plus judicieux. Encore heureux. C'était... Ils ne pouvaient pas faire pire. Bon, il y a quand même quelques points négatifs, si je peux dire. Pour moi qui ai lu les livres, je m'y suis toujours retrouvée. Pour Emilien qui n'avait pas lu les bouquins,
j'ai
des
rien
fois,
compris.
Au niveau géographique et géopolitique,
j'ai rien compris.
Avec Ravka, les ennemis, comment ça se passait, où était le Shadowfall, comment ça le pays était coupé en deux, pourquoi ils ne pouvaient pas contourner. Enfin, même s'ils essaient de l'expliquer, je pense que bah, moi je vais montrer une carte en fait. Et je lui dis, bah, tu vois, là, là, et c'était quand même plus compréhensible, je pense.
Bah, en fait, c'est comme si on regarde Le Seigneur des Anneaux. Et qu'on nous dit pas que, que le Mordor, c'est les méchants. Que genre la Terre du Milieu est en guerre contre le Mordor, et qu'on nous dit, il y a des ennemis. Et voilà.
Ouais, c'est... bah en fait, le problème, c'est qu'on nous dit, les choux sont à l'ouest, ou je sais pas où, les machins sont en haut, là, là, mais en fait, on n'est pas, enfin, pas cartographe, nous, de.
Bah non, c'est pas nous, justement.
Oui, attends, je vois, là, on est là, au nord, au sud, à l'ouest, ouais, non. C'est ça,
il faut dessiner au fur et à mesure.
Bah non, mais tu peux même pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de contexte. On te parle de front, mais on ne t'explique pas où ils sont. Mm. Et non, c'est pas... Ça fait partie du point noir de la série, c'est le manque de contexte. Si bien que Netflix, une semaine après la série, tiens, si on faisait une vidéo qui explique la situation...
Qui expliquait tout.
Mais trop tard.
Et ils ont fait pareil aussi pour les pouvoirs des Grisha. Parce qu'en fait, dans le bouquin, bien évidemment, ils nous expliquent les catégories de Grisha qui... Et tout ça, et comme là, il n'expliquait pas du tout... Bah, y a personne qui dit « Ah, toi, t'es tel truc, tu fais ça, toi, t'es tel truc, tu fais ça. » Et les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, bah, du coup, ils disaient « Mais attends, je comprends rien. » Donc là, ils ont fait pareil, une vidéo qui explique les types de Grisha et comment ça fonctionne. Et ils ont fait également une vidéo sur Succès of Chrome. Un peu... Enfin, tout ça, c'est dans la même vidéo.
Mais la vidéo qui explique les pouvoirs, ça m'a moins gêné, parce qu'on n'a jamais eu de mal à comprendre X-Men. Enfin, X-Men, on n'explique pas les pouvoirs, mais on les comprend visuellement. Donc...
Ouais, mais
ça
comme
m'a
là, en
moins
fait, c'est
gêné.
Vraiment, il y a des catégories de Grisha. Ils font partie. Ils ont, en gros, ils ont des keftas par rapport à leur pouvoir. Il y a ceux qui sont en rouge, ceux qui sont en bleu, ceux qui sont en violet. Non, tu n'avais pas remarqué?
J'avais remarqué qu'il y avait des couleurs, mais non, le Darkling qui était en noir, je pensais que c'est parce que... Bon,
c'est le seul qui est en noir.
Il est dark,
mais...
il est méchant.
Mais non, il y a un truc intéressant. Non, je Darkling est en noir parce qu'il dirige les ténèbres.
Oui, non, bah,
et Alina
oui, bon,
se met en noir
subtil.
Parce que après, elle lui demande il demande à Alina de porter du noir parce que, pour dire qu'ils sont supérieurs aux autres et différents. Tu vois ce que... Non, ok.
Si, et le noir absorbe toutes les couleurs.
Autre
donc,
point
coup,
négatif, continuons, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein. Quand même. C'est une série qui fait 8 épisodes, c'est une adaptation, il n'y a pas que du positif. Moi, j'ai trouvé que le voyage de Nina et Mathias nous sortait un peu de l'histoire. Et
c'est vrai.
Vraiment, bah, c'était vachement moins réussi que le reste. Putain, j'avais l'impression qu'ils étaient dans un fond vert et qu'ils avaient vraiment collé les paysages derrière.
C'était... Quand ils sont échoués, là, quand
ouais,
leur bateau est...
Plage.
Non, c'était pas la plage, moi, qui imaginais. C'est vraiment quand leur bateau est... Enfin, quand ils sont naufragés, plutôt, en mer. On le voit bien, enfin, on le sent bien, le bassin. Ils sont jamais au cœur de l'océan. Ils sont dans
après,
un gros bassin avec des petites vagues. On se croirait à Center Park. Où il fait nuit.
Après, je comprends qu'il fallait forcément aborder cette partie de l'histoire pour pouvoir les intégrer après dans une saison 2, 3 et la suite. Mais du coup, bah, je trouve que ça nous décroche un peu du reste de l'histoire. Et d'ailleurs, ils ont peut-être eu un peu plus de mal à lier ces deux personnages-là au reste de l'histoire. Parce que quand tu vois le Darkling qui parle de Nina ou des trucs comme ça, on est toujours un petit peu... on voit que les liens sont moins solides que d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression.
Ça fait vraiment le truc. Justement, tu disais que cette histoire se passe, enfin, ces personnages existent dans Six of Crows et pas dans Grisha.
Ouais.
Autant pour les trois autres loustiques, c'est hyper bien fait, c'est très très fluide et on s'en doute pas si on connaît pas les livres. Autant pour eux, on sent qu'il y a un truc qui coince. Ils sont rattachés de manière un peu artificielle tout au long de l'intrigue. Enfin, on les suit, ils sont tout le temps à part. Effectivement, ces deux personnages-là sont, c'est moins bien fait. Je suis d'accord.
Et puis après, pour le dernier point dont j'ai envie de parler, c'est pas vraiment négatif, c'est plus des interrogations sur comment ça va se passer pour la suite. Je suppose qu'il y aura une suite, qu'il y aura une saison 2. Ça m'étonnerait vraiment que l'autrice et que même Netflix se soient lancés dans cette aventure sans prévoir de suite, parce que niveau budget, Enfin, c'est une saga qui est vraiment très importante dans la littérature jeunesse. Et moi, je pense que si ça se finit avec cette saison, ça serait vraiment très, très, très dommage. Donc, je suppose qu'il y aura une suite. Et ma question, ça va être comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont continuer à intégrer les personnages de Six of Crow dans la saga Grisha? Ou est-ce qu'en fait, ils vont séparer les deux... Ils vont séparer, on va dire, les deux, comme, et on aura, on va dire, la suite de l'aventure d'Alina et Mal, puis d'un autre côté, la suite de l'aventure de Kaz, Jesper, Inej, Mathias et, et tous les autres. Enfin, ça, c'est vraiment une interrogation. Pour l'instant, j'ai pas la réponse, vu qu'on n'a aucune information et que pas de saison. Enfin, il n'y a pas eu d'annonce de saison 2.
Ça fait une semaine.
Oui, oui, c'est ça.
Il faut être patient.
Mais sinon, moi j'étais un tout petit peu déçue parce que je pensais que dans le dernier épisode, on n'allait pas me laisser comme à la fin du premier bouquin, on va dire. Je pensais qu'on allait peut-être aller un tout petit peu plus loin et nous donner un petit truc, un petit bonus, quelque chose qui allait nous dire il faut vraiment regarder la suite, ou enfin, un peu comme une carotte quoi, en mode hey, les gars, vous allez voir ce qui va vous attendre. Et en fait, la carotte, pour les gens qui ont lu le livre, ça aurait été de nous montrer ou d'intégrer les personnages de Willan pour Six of Crow ou de Nikolai pour Grisha. Parce que c'est vraiment deux personnages que moi j'adore, mais je suis pas la seule. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Nikolai a sa propre duologie littéraire aussi. Donc c'est aussi un personnage sur lequel ils pourront faire une série après. Et non, en fait, il n'y a pas eu ce petit bonus, ce petit truc en plus qu'on aurait pu attendre. Enfin, voilà.
Donc j'étais un peu déçue.
Après, on verra comment se passera la suite.
Patience et mère de vertu.
Ah oui, et autre petite déception, la musique.
Tant pis. Oui.
J'ai pas été particulièrement...
Il y en avait une
Je trouve qu'il y a des bruitages intéressants dans le Shadowfold. Quand ils sont dedans, ouais, il y a des bruitages intéressants, mais il n'y a pas de musique qui a retenu mon attention plus que ça, et c'est un peu triste parce que moi j'aime bien quand il y a des bonnes sons qui retiennent mon attention. Donc j'espère qu'il y aura un truc pour la saison 2 aussi. Voilà, ça t'a donné envie de regarder, Damien?
Oui, un petit peu, mais à la fois je sais pas si ça m'a plus donné envie de lire que de regarder.
T'aimerais pas non, en fait, le tome 1 de Grisha est vraiment très compliqué. Moi, je ne l'ai pas du tout aimé. Heureusement qu'il y avait Six of Crow. En fait, j'ai lu le tome 1 de Grisha, le tome 1 de Six of Crow, le tome 2, et après, je suis repassée à Grisha, tome 2 et tome 3. Parce que sinon, si j'avais pas lu Six of Crow entre les deux, j'aurais arrêté.
Okay.
Mais alors, est-ce que c'est possible de regarder la première saison de Shadow and Bone et après de passer au tome 2 de Grisha, tome 3 et Six of Crows?
Tu veux juste...
De sauter le premier tome, s'il est si mauvais. Là, on transfère vers le podcast littérature.
Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je pars du principe que, tu vois, j'ai pas lu comme il fallait parce que j'aurais dû lire les trois premiers tomes de Grisha, puis après Six of Crows. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux très bien te mettre à lire le tome 2 de Grisha, sauf que, en ayant juste vu la saison 1, sauf qu'il faudra te dire que tu retrouveras pas Jesper, tu retrouveras pas Inej, tu retrouveras pas Kaz, parce que eux, ils ont jamais été dans ce tome-là, en fait.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas la même chose.
Donc ça semble compliqué.
Oui, et puis et en plus de ça, il y a des choses, enfin c'est une adaptation, hein, donc c'est pas mot pour mot et scène pour scène ce qui s'est passé dans le roman. Je tiens à préciser, il y a plein de choses qui se passent dans cette série qui ne se passent pas ou qui ne se passent pas de la même manière dans le bouquin. Un exemple parmi tant d'autres, le personnage de Marie ne finit pas du tout dans la même façon dans cette série que dans le roman. Et il y a des amitiés qui sont pas les mêmes, il y a des gens qui sont en couple qui sont pas les mêmes. Enfin, voilà. Après, je pense que l'auteur a voulu un peu... Il y avait des points négatifs dans sa saga littéraire, et elle en était consciente, c'était sa première saga littéraire, et elle a voulu améliorer les choses, et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien de faire les choses comme ça. Son personnage de Mal, je le supportais pas du tout dans le tome 1 de Grisha, et là, elle en a fait quelqu'un qui était plus appréciable, et plus humain, et plus attachant. Donc, il y a des points positifs, vraiment. Et voilà. Et c'était très bien. J'aimerais bien voir la suite rapidement. mais je pense que ça sera pas très rapidement.
Non, il faut attendre. Il faut attendre qu'il nous fasse quelque chose de qualité.
Après, voilà, s'il faut attendre 2 ans, mais que c'est d'aussi bonne qualité, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Hein.
Parce que je rappelle que la saison 2 de Qui a tué Sarah est sortie 3 semaines après la saison 1. Donc, voilà.
C'est pas la même chose. Hein.
C'est pas la même chose. C'est le meilleur et le pire de Netflix, quoi. Merci beaucoup. On a...
Mais du coup, ah, je bah peux non, dire un autre petit mot. Du coup, si Netflix adapte des sagas littéraires comme ça...
Si Netflix nous écoute.
Non, non, mais si Netflix, son nouveau truc, c'est d'adapter des sagas littéraires comme ils l'ont fait avec celle-ci, bah moi, je suis pour. Hein. Enfin, clairement, allez-y, les gars, parce que bah c'est cool.
Je les soupçonne avec cette série d'avoir tenté et réussi de faire leur, leur croisée des mondes.
Mm.
Paris réussi. Donc oui, continuez, les gars. On en a terminé avec les séries. On va maintenant passer au film. On va commencer par un film que seule Mathilde a vu, sorti sur Netflix.
Oh, tu l'as un peu... Enfin, tu l'as pas vu, mais je t'en ai tellement parlé que... Bon, allez, allons-y. On parle de A Week Away, qui est sorti sur Netflix en mars, il me semble. Et qui fait 1h34. Alors, c'est une comédie musicale. Oui ! Alors là, on dirait oui, c'est trop bien. C'est une comédie musicale qui se passe dans une colonie de vacances catholique.
Oh. T'aurais pu dire d'abord qu'il se passe dans une colonie de vacances. Oui, catholique. Oh.
Oh. Du coup, c'est un petit peu moins exaltant. Alors, si on veut résumer rapidement, en gros, il y a un ado qui est perturbé, qui fait des bêtises, et on lui propose soit d'aller en prison, soit d'aller dans une colonie de vacances. Bien évidemment, le choix est vite fait. Il décide d'aller en colonie.
C'est complètement con comme question. En plus,
il décide d'aller en colonie de vacances. Je comprends pas pourquoi. La prison, c'est sympa. Et durant cette colonie de vacances, il trouve l'amour, des amis, et il trouve enfin sa place dans sa vie, dans la vie. Oh là là, c'est beau. Alors, faut déjà dire que ce jeune homme qui fait plein de bêtises est orphelin, donc c'est un peu triste, il a pas une vie très joyeuse. Le film en lui-même est mignon, la musique est sympa, mais soyons clairs, le discours religieux est beaucoup, beaucoup trop présent. Vraiment, moi, ça m'a mis très mal à l'aise.
Il est très douteux, surtout.
Oui, en plus, il est douteux, mais... Enfin, t'entends une chanson, enfin, elle est belle, cette chanson, et puis là, tu lis les sous-titres des paroles, et tu dis, non, mais ils sont vraiment en train de dire ça, mais on peut pas chanter ça. Imagine, il y a des ados qui écoutent ça, ils vont croire quoi ? Ils vont croire que, au final... comment dire ? Ils vont croire que Dieu règle tous les soucis. Voilà, c'est à peu près le message qui passe. Et en plus, le film a une morale très, très douteuse, en effet. En gros, ce jeune homme qui est dans cette colonie de vacances trouve des amis, trouve des gens qui s'intéressent à lui, trouve l'amour même. Et en fait, il trouve juste une famille, si je peux dire. Et en fait, le message, en gros, nous dit que non, ce n'est pas l'amour qu'il trouve, c'est Dieu. Comme si, en gros, trouver l'amour, c'est trouver Dieu. Quoi ? Hein ? Non, c'est pas ça du tout. Donc non, moi, ça me pose vraiment un problème. Hein. J'avais l'impression de voir un film de propagande. Mais un film de propagande mignon. C'était mignon. Mais de propagande quand même. Je sais pas si t'as ressenti ça, mais moi, j'étais vraiment horrifiée. Hein.
Non, enfin, je peux pas. Je peux pas dire que
juste la chanson, où ils sont tous...
La chanson était chelou.
Il y a une chanson, ils sont tous autour du feu et ils se mettent à chanter. Et la chanson est toute mignonne, très douce, très jolie, oh là là. Non mais les paroles. Ça va pas du tout, ça va pas. Donc de la propagande mignon. Moi je trouve que par contre, bah c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Il y a des jeunes, si c'est une gosse de 12-13 ans qui regarde ça vachement influençable, ça peut vite être compliqué. Enfin, c'est mon avis, après... Les gens, ils font ce qu'ils veulent.
Mais quand même.
C'est un film américain qui passe peut-être bien aux États-Unis, mais chez nous, c'est compliqué. Voilà.
Passons à un autre film américain qui est sorti sur Netflix l'année dernière, en 2020, qui s'appelle Les 7 de Chicago. Et Mathilde et Mola vont regarder. Et on peut vous faire un petit résumé rapide. Alors qu'elle devait être pacifique, la manifestation tenue en marge de la Convention démocrate de 1968 s'est transformée en un affrontement violent avec la police et la garde nationale américaine. Ses organisateurs ont alors été accusés de conspiration et d'incitation à la révolte lors d'un procès entré dans l'histoire. Alors c'est une histoire que personnellement je connaissais pas.
Moi non plus.
Damien, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire ? Tu n'as pas vu le film, mais...
Non, mais j'ai entendu j'ai déjà entendu le pitch et le nom du film, donc je la connaissais juste pour ça. Mais non, avant, non, pas du tout.
D'accord. Eh ben, effectivement, c'est une histoire qui a beaucoup marqué les États-Unis, donc le film nous raconte pourquoi, et on comprend pourquoi. Parce qu'il y a vraiment une parodie de procès, puisque les sept... personnages principaux qui sont accusés de conspiration et de tout ce que vous voulez, eh ben, ont pas eu un vrai procès équitable. Ils étaient condamnés d'avance pour des raisons politiques. Enfin, c'est le parti pris que prend le film, en tout cas. Et j'ai trouvé que, du coup, c'était un film très intéressant pour cet aspect historique qui arrivait à montrer des choses qu'on pourrait voir peut-être encore aujourd'hui.
Ouais, moi j'ai bien aimé les acteurs aussi. Je trouvais qu'il y avait un très bon casting. Et oui, c'est un film un peu révoltant parce que déjà le juge est complètement... Enfin, moi j'en pouvais plus quoi de ce type.
On est proche d'être sénile.
Ouais, non, il était pas sénile, il était fou. Enfin, il était vraiment, il avait un problème psychologique important. Et il y a plein de choses dans ce film qui sont très dérangeantes, et au fait, on se rend compte que ça résonne encore aujourd'hui, c'est toujours la même actualité, comme quoi le monde ne change pas tellement.
Exactement. Donc, c'est vraiment un beau film de ce point de vue-là. Alors, j'ai écouté un monsieur très intéressant qui a parlé d'une théorie en rapport avec le film qui s'appelle la démonologie, qui rapidement consiste à unifier les coupables, donc un seul même ennemi, pour justifier la violence, pour justifier un procès inéquitable, puisque les accusés sont ceux qui ont voulu détruire la démocratie. Donc voilà, on pourrait résumer ce film à cette théorie que j'ai trouvée fort intéressante. On peut passer maintenant à la suite, si ça vous dit.
Ça me dit.
Il est là-dedans, on a dû l'isoler. Il se battait avec les autres détenus.
Salut, Denis. Ton père, c'était un grand bonhomme.
Je le connais pas. J'ai rien à voir avec lui.
Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand.
Et pourquoi t'as voulu être boxeur ?
Mon père était boxeur. Il est mort avant ma naissance. Et j'ai été trimballé de foyer d'accueil en prison pour mineurs. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix.
Tu vois ce gars-là, le gars que t'as en face, là, c'est ton pire adversaire.
Inquiète-toi !
Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie.
Tu vas me quitter, toi aussi ? Tu sais combien de fois il a fallu que je l'aide, le champion du monde, que je le porte là-haut parce qu'il était hors d'état de marcher. Côte cassée, nez cassé, œil poché, défiguré.
De quoi t'as peur ?
J'ai peur de prendre la relève et de perdre, de me faire traiter d'imposteur.
T'es encore coincé dans son ombre.
Chaque fois que je vais bouger, chaque fois que je vais cogner, je serai tout le temps comparé à lui.
Tu es le fils d'Apollo Creed. Reprends son nom, c'est le tien.
Personne le connaît, il a jamais fait un seul combat. Tu sais rien, tu me connais pas. T'es un faux Creed.
Si tu y vas, tu vas affronter un ouragan.
Coach, venez m'aider !
Rocky est malade.
Si ça pète, je répare pas. Tout ce que j'avais est parti. Et moi, je suis là.
Vous êtes là en train de chialer que vous avez personne. Et moi, tous les jours, je suis là. Je suis planté là, juste devant vous.
C'est un combat comme un autre. Si je me bats, vous aussi.
Souviens-toi de tout ce qui t'a fait mal. De toute la douleur que t'as eue en toi. Et tu comprendras ce que nous on a vécu. Ta place, c'est ici. Tu dois être capable de choper un de ces piafs.
Sérieux ?
Un peu que je suis sérieux. Les poules, c'est plus que c'était.
J'ai terminé la saga Rocky Et comme promis, j'ai enchaîné avec la saga Creed. Donc j'ai regardé Rocky 5, Rocky Balboa, Creed, l'héritage de Rocky Balboa et Creed 2, qui sont tous maintenant, au moment où vous écoutez cet épisode, sur Prime Video. C'est mon sujet du mois, donc je vais prendre un malin plaisir à en parler. Et vous allez pouvoir donner votre avis aussi, même si vous ne l'avez pas vu. Pour faire un petit résumé rapide, Rocky 5 parle de la retraite de Rocky. Alors vous allez voir qu'il y a une thématique commune au film. Rocky prend sa retraite et doit rebondir. Alors c'est pas des films de boxe.
Zut, on s'est trompé.
Il prend Tommy Gunn, un jeune boxeur, sous son aile. Et donc ce film est un retour aux sources pas réussi.
Je croyais que ça parlait pas de boxe.
Ça parle pas de boxe. Parce que Rocky, qui s'était embourgeoisé, revient dans la rue. Mais ça se foire un peu parce que le film est pas génial. Mais je préfère un film qui échoue en essayant plutôt qu'un film comme Rocky 4 qui réussit à faire des trucs nuls. Ensuite, comeback de Rocky dans les années 2000. Donc 15 ans après, avec Rocky Balboa, qui a maintenant 60 ans, et qui décide de se réinscrire à la boxe par loisir, mais on lui propose de défier le champion du monde en titre, qui est en manque de popularité, donc quoi de mieux que de combattre Rocky pour...
Est-ce que ça existe, ça serait possible dans la vraie vie? Est-ce qu'on laisse des papis de 60 ans se battre contre des gens? D'accord, je suis rassurée. Non mais je suis rassurée parce que j'aurais été un peu...
Ouais, mais après, quand tu vois la carrure du papy de 60 ans, tu fais, bon, ok.
Il avait vraiment 60 ans?
Ah, il avait vraiment 60 ans, et puis il a vraiment la carrure qu'il avait dans le film.
Il avait quel âge dans les autres? Parce que du coup, s'il avait 60 ans dans celui-là...
Je dirais qu'il a, 40 ans.
Non, je parle dans Creed et Creed 2.
Il a 70.
Oh là là, papy. En fait, il a passé toute sa vie à faire des Rocky.
Alors, Stallone a une caractéristique très amusante, c'est que dès qu'il a un creux dans sa carrière, paf, il sort un Rocky. Comme ça, ça lui remet un coup de boost.
Peut-être qu'on aura bientôt un autre Rocky, alors.
Non, je vais vous dire pourquoi, mais non. Et donc, Rocky Balboa est un soft remake de Rocky, parce que ça reprend à peu près la même trame que Rocky. C'était, pour info, avant la mode des reboots à la Star Wars 7, etc. Ça a quelques défauts, mais ça a plein de qualités. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Et c'est, encore une fois, un retour aux sources. Si vous suivez, on est déjà au deuxième. Et donc, on pensait que la saga Rocky était terminée à ce moment-là. Mais en 2015, arrive par surprise un film qui s'appelle Creed, qui raconte la vie du fils caché d'Apollo Creed. Je vous en avais parlé le mois dernier. C'est, on peut dire, l'ennemi, la némésis de Rocky. Et donc Adonis Creed, ce fils interprété par Michael B. Jordan, va demander à Rocky de l'entraîner pour devenir un boxeur professionnel. Et c'est un retour aux sources. C'est un film vraiment incroyable par sa mise en scène qui est exceptionnelle. La direction artistique est globalement géniale parce que la musique est exceptionnelle. Encore une fois, les mots, les superlatifs vont me manquer.
Les mots te manquent.
Les mots me manquent. Il y a un combat en plan séquence. Enfin, imaginez vraiment un combat de boxe en plan séquence. Il faut le voir sur YouTube. Vous pouvez taper plan séquence Creed. C'est vraiment une claque. Cinématographiquement, c'est une claque. Et on termine par Creed 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui parle de Adonis Creed qui devient champion du monde et qui se voit défié par Victor Drago, donc le fils d'Ivan Drago, le monsieur...
J'allais dire Drago Malfoy.
Non, le monsieur qui avait tué son père. Donc voilà, on est sur un bail de vengeance, de revanche, et on demande à Adonis de créer sa propre légende.
Non, mais il n'est plus du tout Rocky, là, du coup.
Et Rocky est encore là, mais pour la dernière fois, parce que...
La chaise roulante.
Parce que, non, il est... Je ne l'ai pas dit, mais dans Creed 1, il a un cancer.
Oh, mais c'est triste, ça.
C'est, bah voilà. Mais parce que Rocky est un personnage exceptionnellement touchant, qui est vraiment attendrissant. Enfin, on a envie d'avoir Rocky dans ses amis. Et donc, revenons à Creed 2. Même si la réelle est moins aboutie et plus académique, je l'ai préféré, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, je l'ai préféré au premier Creed, même si je vois bien que l'histoire, la réelle, tout est un peu moins bien fait. Mais je sais pas, j'ai passé un meilleur moment. Au final, La saga Rocky, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai découvert très tard, mais maintenant, elle fait partie de mes sagas cultes et classiques. C'est vraiment intelligent, touchant, exaltant. Voilà.
Est-ce que c'est pas un peu exceptionnel?
On pourrait dire exceptionnel. Donc en fait, vous écoutez plus pour vous moquer de moi que quand je fais des trucs. Et ben voilà, j'ai terminé. Et on a aussi terminé les films. On peut passer au documentaire. On a regardé, enfin j'ai regardé qu'un seul documentaire, donc à la fin de la série Falcon et le soldat de l'hiver, il y a Disney Plus qui nous sort comme à chaque fois un making-of intitulé, alors accrochez-vous, Marvel Studios Rassemblement, le making-of de Falcon et le soldat de l'hiver. C'est moins long que WandaVision.
Ah, je peux dire un truc? J'ai oublié de dire un truc tout à l'heure quand on parlait du Falcon et le soldat de l'hiver. Changer ce nom, bon sang.
Mais oui, pourquoi est-ce qu'il,
s'appelle... Non, mais pourquoi est-ce que Falcon, je comprends, le soldat de l'hiver, moi, bof, voilà. Moi, je voudrais qu'on arrête de dire ça.
C'était son nom de méchant.
Ouais, bah du coup, on a dit les noms de méchants au début, mais à la fin, il faut changer. Donc la prochaine série, elle s'appellera Captain America et le loup blanc, par exemple. Voilà. Merci.
Je suis un peu d'accord. Bah voilà. Enfin, en tout cas, le making-of était bien. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, parce que la série est pas exceptionnelle. Donc, moins intéressant que WandaVision. On n'apprend pas grand-chose, si, à part qu'ils ont méga galéré avec le Covid, puisque le tournage a été interrompu vraiment en plein milieu. Ils étaient en Bulgarie, donc il a fallu... Non, République Tchèque, pardon. Donc, il a fallu qu'ils rentrent en plein milieu, qu'ils retournent en République Tchèque. Enfin, voilà. Grosse tanasse. À part ça, bon, on n'a pas appris grand-chose, c'était du Marvel dans la mise en scène, donc voilà. Pas foufou. Et on peut passer maintenant au sujet du mois.
Attends, bouge pas.
Tu me fais voir.
Arrête, bouge pas.
Laissez voir.
D'accord. T'es prête?
Je l'adore.
T'es adorable de me dire ça, parce qu'il est horrible.
Enfin! Où est-ce que t'étais passé, bon sang, Joël?
Aimé, je t'aime, je viendrai te retrouver. Le jour le plus bouleversant de ma vie a été le jour où j'ai perdu tout le monde. Seule une infime partie de l'humanité a survécu et s'est installée sous terre. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de rechercher Aimé. Et j'ai enfin réussi à la retrouver.
Joël?
Hé!
Joël!
Aimé, est-ce que c'est toi?
J'en reviens pas!
Hé! Est-ce que la colonie d'Aimé est loin?
À environ 135 km.
C'est dangereux, c'est trop loin.
Tout ce qui bouge voudra te tuer. Te bats pas, tu cours et tu te caches.
Ah, ok. Wow! T'es tout seul? Moi aussi. T'es pas obligé d'en parler. Tu veux venir avec moi? C'est un sabre de samouraï?
Ouais, c'en est un. Tu dois toujours écouter ton instinct, compris?
Qu'est-ce que je fais si mon instinct est mauvais?
Tu meurs.
Vachement encourageant comme speech.
Tu as fait tout ce chemin pour une fille, c'est ça? Gamin, t'as déjà entendu l'expression « c'est perdu l'avance » ?
Joël ?
Aimé, tu me manques tellement.
On a perdu cette guerre.
Peut-être qu'on retrouvera notre monde d'avant.
Pour moi, t'es un vrai miraculé.
C'était incroyable. J'ai l'impression d'être Tom Cruise.
On a regardé, enfin, il y a une personne autour de la table, vous allez deviner qui n'a pas pris le temps, ou eu le temps, ne soyons pas accusateurs, de faire le sujet du mois. Il s'agit de Love and Monster, sorti sur Netflix le 14 avril 2021. Un film réalisé par Michael Matthews avec Dylan O'Brien, Jessica Henwick et Hero, voilà, dites-le comme vous voulez. Hero, c'est le chien.
C'est le chien, on est d'accord.
C'est le chien.
Ah non, mais moi, c'est mon personnage préféré. Déjà,
tu n'es pas la seule.
Incroyable. Voilà.
Si on peut faire une petite fiche technique, vous allez voir que ce film-là a encore galéré à sortir. Il était prévu initialement en avril 2020 au ciné, puis en février 2021 au ciné. Ensuite, courant février, ils ont dit « Bon, bah finalement, on va le sortir en VOD, en octobre 2020. » Donc, c'est sorti aux US en octobre, et c'est sorti en avril 2021 chez nous. Donc voilà, on voit que c'est un peu parsemé, et que c'est galère.
Moi, je trouve que ça se voit que c'est un film de cinéma et pas un film de Netflix.
Ça se voit, parce que justement, les effets visuels sont plutôt bien. Et il a été nommé aux Oscars en 2021 pour les meilleurs effets visuels. Bon, c'était Ned qui a gagné. Je pense qu'il n'y a pas photo.
C'est pas trop la même chose.
Et dans le développement du scénario, ils ont essayé... Déjà, c'est un scénario original, donc ça fait partie des points positifs en ce qui me concerne. Ils ont cherché à faire un film dans la veine de Mad Max et de Bienvenue à Zombieland.
Ah, le Bienvenue à Zombieland, on le sent. Enfin, ça pourrait être ça pourrait être dans un univers parallèle de Bienvenue à Zombieland. Il y a beaucoup de choses en commun. Règles.
On avait noté plusieurs similitudes avec d'autres films et d'autres sagas. Alors, j'en ai noté certaines. Bon, on a dit il y a Zombieland pour les règles notamment et l'aspect vraiment survival d'un personnage. Le labyrinthe, j'ai noté le labyrinthe parce qu'il y a Dylan O'Brien en sueur tout le temps.
Oh, quand même.
Des gens en sueur.
C'est pas méchant.
C'est le même acteur, c'est pour ça qu'il
dit ça. Dylan O'Brien en sueur.
Moi, il n'y a quand même pas énormément de similitudes avec le labyrinthe, qui est quand même une trilogie beaucoup plus sombre. Oui, là, on n'a pas le même Dylan O'Brien que dans le labyrinthe.
Il est un peu plus bébête.
Il est un peu plus bébête. Il est un peu plus marrant. Il a un personnage un peu plus positif.
Mais il transpire de la même manière. Il est tout le temps en luisant et poussiéreux.
Je suis pas sûre que c'est... Oui.
On avait noté aussi... Bon, pour Mad Max, je l'ai mis, mais c'est vrai que c'était un peu moins...
Moi, je trouve qu'il ressemble plus à son personnage dans Teen Wolf que dans Labyrinthe.
Ouais, mais j'ai pas vu Teen Wolf.
Ouais, il ressemble plus.
Pour Mad Max, c'est un petit peu... On peut se fier à personne, un petit peu. Enfin, on peut compter que sur soi-même. Mais c'est pas... C'est un peu poussif.
Il y avait aussi... King Kong, ouais, avec les insectes. Par contre, les insectes dans ce film-là font moins peur. Mais ils sont très bien faits. Moi, il y a des moments où j'ai flippé sa race. Si. Même plusieurs moments. Ou quand on a lancé le film, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai voulu choisir ce film, parce que il y a des beaux trucs qui font.
Et aussi, Je suis une légende en dernière similitude, parce que ça parle d'un homme et d'un chien. Enfin, ça parle d'un homme et d'un chien. Non, on suit un garçon, un homme accompagné de son chien, et aussi un petit, enfin, la radio pour communiquer. Je l'ai noté, mais il y a plein de films qui font ça. Voilà.
Non, mais c'était... Moi, j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé aussi.
Damien aimera bien aussi, quand il regardera.
On pourra faire un...
La revanche.
Un crossover.
Oui. Non, mais si, mais un crossover d'épisodes.
Oh là là. On fera un...
Ça sera le récapito de Damien.
On fera un récapito 1.5, mai.5.
C'est le récap d'âme. Celui où on parle de tous les trucs que Damien devait rattraper.
Le rattrape de dame. Oh, ce sera une chronique, ça.
Le
rattrape d'âme. C'était bien, mais malgré tout, la mise en scène était quand même académique. Enfin, la mise en scène m'a pas plus emballé. C'était super.
Ouais, c'était simple. Et même au niveau du scénario, c'était, comment dire, prévisible.
C'est prévisible. Et même si c'est un peu, tu vois, ça tente des trucs au début. Ça se dit, allez, on va prendre un personnage. Qui a pas grand chose pour lui au départ, à part d'être sympathique. Il sait pas tirer, il est un peu benêt, personne lui fait confiance. Et au final, tout se clichéise au fil du film. C'est comme si ça part d'un plot de départ qui a envie d'avoir des valeurs différentes. Et au final, le héros, il devient vraiment un héros à la fin. Au départ, on nous dit que la demoiselle en détresse, elle est peut-être pas si en détresse, et puis au final, il finit par la pécho.
Ouais, mais moi je pense aussi que c'est, enfin, on dit que tu dis que c'est un peu le cliché du héros qui est nul et qui devient fort. Après, est-ce qu'il a eu des occasions de devenir fort dans en vivant dans son petit, dans son comment on appelle ça ?
Dans son bunker.
Dans son bunker depuis toutes ces années, tous les autres ils étaient plus vieux que lui. On voyait bien qu'ils s'occupaient tous de lui, qu'ils essayaient de le protéger, si je peux dire. Et tout ça, et au final, en sortant et en allant dans le monde, eh ben, il découvre qu'il peut apprendre des choses par lui-même. Il dessine très bien, du coup, il prend des notes sur les monstres et tout ça. En fait, on lui apprend des choses, mais jusqu'à maintenant, personne ne croyait en lui et tout ça. Et enfin, moi, je pense que c'était sûrement quelqu'un qui était déjà un héros de base. Voilà.
Ouais,
c'est
peut-être.
Juste qu'il a eu l'opportunité de se mettre en valeur et de découvrir le monde et de vivre des choses.
Ouais.
Grâce à Boy. Qu'on se le dise, hein, si Boy n'était pas là, il n'y aurait pas de film. Vraiment. Boy le sauve.
Joël serait mort.
Joël serait mort sans Boy. C'est clair. Et inversement. Voilà. Donc moi, je le dis, mes scènes préférées du film, c'est les scènes où Joël parle à Boy. Mais il lui parle vraiment, genre, en mode... Quoi ? Ah, tu veux pas qu'on en parle ? Bon, d'accord, c'est pas grave, on n'en parle pas.
Ah oui, il y a des vrais dialogues à
son
sujet.
C'est un chien, donc il va pas parler de toute façon. Donc, et puis, ils ont clairement choisi le chien le plus beau du monde. Enfin, ce chien est vraiment très, très, très photogénique, ça veut rien dire. Mais il est très beau.
Il passe bien à la caméra.
Il passe vraiment bien. Et il a des patounes très mignonnes, de différentes couleurs. Alors, mais ça, moi, j'aime bien. On dirait qu'il porte des chaussettes. Voilà.
Eh ben, t'as donné ta scène préférée. Moi, la mienne, c'est quand il parle avec le robot.
Ah, elle est très
belle,
ça aussi.
C'est une scène qui est très touchante, qui est très belle. Enfin, vraiment, il se passe plein de choses dans cette scène. Alors que c'est juste une scène de dialogue de nuit où ils sont assis sur un banc, mais c'est vraiment très, très beau. Dylan O'Brien joue très bien et très bien écrit. Enfin, voilà, tout très.
J'ai bien aimé aussi, dans cette scène, le moment où il y a les méduses volantes.
Ah,
qui
oui.
Arrive et ça donne vraiment quelque chose de très beau.
Ah bah, ça fait Avatar.
Des méduses volantes. Qu'est-ce qu'il raconte ?
Ça fait très Avatar, donc finalement,
ouais.
Ça fait une similitude en plus.
Non, j'ai trouvé ça très beau, photogénique. Esthétiquement parlant. C'est très beau.
Ça
voilà, je trouvais plus mes mots.
Ça me fait penser que dans ce film, il y a un truc qui est super cool, c'est que l'univers, il est très riche. Il y a plein de choses en arrière-plan, dans les décors, dans les objets qui sont fabriqués, parce que c'est du post-apo, donc il y a plein d'objets fabriqués. Ça fait un peu penser aux jeux vidéo, d'ailleurs, dans la manière de crafter des armes et tout ça. Donc, enfin, tout ça est très abouti. Ça a été, j'ai pas envie de dire que j'ai envie d'y vivre, mais en tout cas, c'est tellement palpable qu'on y croit et qu'on pense qu'on pourrait y aller. Et de ce point de vue-là, ils se sont mis les moyens. Et comment ?
Mais il faudrait un chien.
Il faut un chien. Tu meurs
si
t'as pas de chien.
Le petit truc qui peut être négatif, c'est que vu le moment où est sorti ce film, donc je pense qu'ils avaient prévu une suite. Parce que le final du film nous induit qu'il pourrait avoir une suite. Et moi,
oui.
j'ai peur que, vu qu'il soit sorti directement sur Netflix et qu'il soit pas sorti au cinéma, que du coup, il n'y ait pas de suite. En gros, qu'ils se disent, tant pis, c'est one shot, et puis voilà. C'est bête, parce que je pense qu'il y a moyen de développer encore des choses dans cet univers, comme ont pu le faire avec Zombieland. Bon, j'avais peut-être pas trop aimé la suite, mais là, franchement, il y a moyen de faire des choses et de développer encore plus cet univers. Les créatures qu'ils mettent dedans sont incroyables. Vraiment, il y a beaucoup de recherches de design, de choses... je pense qu'il y a plein de dessins de recherche et tout qui a été fait autour de ce film. C'est très cool.
Ouais, et surtout, moi, un truc qui me réjouit, c'est que c'est un scénario original pour un film. Bon, je ne sais pas si ça se dit pour les films, mais j'ai noté que c'est un film young adult. Et je trouve que un film qui vise ce public-là, que ça soit pas une adaptation d'un roman ou d'une BD ou de tout ce que vous voulez, je trouve ça génial.
Après... il y avait les personnages du monsieur et de la petite fille qui croisent.
Ah oui.
Et j'ai trouvé que c'était très très similaire aux personnages qu'on trouvait dans Zombieland quand même. Moi, ils m'ont vraiment fait penser.
Oui, clairement.
Aux persos de Zombieland. Et j'étais genre, à niveau originalité, on est bien. Mais sinon, non. C'était un très bon film. Et regardez-le si vous ne l'avez pas fait. Peut-être que ça permettra qu'il y ait une suite. Ou peut-être pas.
Damien,
regarde-le.
Damien, tu te rends compte de ce qui pèse sur tes épaules ?
Je suis sûr que tu auras envie d'appeler.
L'avenir de ce film repose sur moi.
Je suis sûr que tu auras envie d'appeler ton chien Boy après ça.
C'est vrai.
Et à la fois c'est confusant, alors c'est un peu risqué.
Ou Joël.
Voilà, on a tout dit. On a bien aimé. On peut passer maintenant aux recommandations du mois de mai.
Les recommandations du mois de mai. Alors, bonjour, bonjour, Netflix. Où es-tu au mois de mai ? Car, qu'on se le dise, Netflix n'est pas là.
Mais il n'y a personne qui est là.
Non, non, personne n'est là. Il n'y a pas grand-chose qui sort en mai. Alors, si, si, on est un peu mauvaise langue. Il y a quand même la Lucifer. Bon, on va voir.
Mais Lucifer, c'est Lucifer.
Oui, mais c'est un truc attendu quand même par les gens qui regardent Netflix. Donc, voilà. Le 4 mai, nous avons Star Wars The Bad Batch.
Oui.
Sur Disney+, avec un épisode par semaine. Donc, ça devrait durer mai et peut-être juin aussi, on verra.
J'ai pas trouvé l'info, je sais pas combien d'épisodes vont sortir en tout.
Je crois que la première semaine c'est 2 épisodes, mais après il n'y a plus aucune info.
Mais on ne sait pas. 10, 12, 15, 20, 30, 50.
Surprise!
24, ils vont prendre un format classique.
Ouais, je sais pas. Mais je suis très content. Ce spin-off de The Clone Wars me réjouit beaucoup.
Le 7 mai, on aura Jupiter's Legacy qui sortira sur Netflix, la saison 1. Alors, moi j'ai regardé la bande-annonce et ça me donne vraiment envie. C'est une adaptation de DC Comics, je crois. Le 14 mai, on aura La Femme à la Fenêtre sur Netflix. Je connais pas.
J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air d'être un thriller psychologique d'une femme qui voit sa voisine se faire suicider, puis qui voit sa voisine dans son salon.
Attends, se faire suicider
Se faire assassiner.
Se faire assassiner, parce que se faire
et
suicider...
Et après, la police lui dit, mais non, votre voisine est là, elle n'est pas morte. Donc voilà, ça a l'air un peu de retourner la tête.
Ça pourrait être une bonne définition, se faire suicider, se faire assassiner, tu vois. Ouais,
En tout cas, ça a l'air vraiment sympa.
D'accord, si tu regardes, tu nous en parleras le mois prochain. Sinon,
dans la même ambiance.
High School Musical, la comédie musicale, la série saison 2 sur Netflix. Non, sur Disney+, voyons. Un épisode par semaine. Alors, moi, je pense que je vous en parlerai pas le mois prochain parce que si c'est un épisode par semaine, ça veut dire qu'il y a un épisode de 30 minutes ou quelque chose comme ça qui sort par semaine. Et moi, j'aime pas regarder ce genre de série avec un épisode par semaine. Donc je vais attendre que la totalité sorte. Mais non, mais j'ai le même problème avec Love Victor. Donc là, je vais pouvoir regarder Love Victor parce que c'est fini. Et le même problème avec Dollface, qui est actuellement diffusé également sur Disney+. Mais je regarderai quand ça sera fini parce que des épisodes de 20 minutes, c'est
frustrant.
C'est frustrant, ouais. C'est vraiment frustrant. On va le 19 mai. Alors, il y a qui a tué Sarah. On vous conseille de pas regarder du coup. Hein. Passer à autre chose.
Super recommandation.
Ne regardez pas.
On recommande de ne pas regarder. En vrai, ne perdez pas votre temps.
Voilà. Le 28 mai, on aura Lucifer, la saison 5, la partie B sur Netflix.
La partie B, l'épisode A. A prime de.
Non, ça sera la fin. Ça sera la fin, le final. Lucifer sera fini, les gars. Je sais pas si vous avez regardé la partie A de cette saison 5. Le final était incroyable.
La linéa 13.
Mais le final était incroyable car un personnage inédit faisait son apparition. Je vous le donne 1000. Dieu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et voilà, c'est nos seules et uniques recommandations pour le mois de mai. Par contre, moi je vous dis, j'ai déjà vu quelques trucs qui sortent en juin. Oh là là, oh là là, oh là là, le mois de juin promet par contre. Peut-être que c'est ça, c'est le mois de mai, c'est la pause.
C'est le calme avant la tempête.
C'est le calme avant la tempête.
Le repos du guerrier.
C'est très beau, le mois prochain, je vous propose de regarder les Mitchell contre les machines. Si ça vous dit, c'est sorti il y a 2 jours. Sur Netflix, oui. C'est un dessin animé. Okay. Un film d'animation.
On dirait un nom de vieux film, mais...
Non, c'est un film d'animation qui a l'air très beau.
Ouais,
pour te convaincre, on peut te dire que c'est réalisé ou produit... Enfin, en tout cas, c'est fait par par les gens qui ont fait Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ah, t'avais aimé ça.
C'est un très bon argument.
Ah, voilà. On se disait aussi que ça allait marcher. Bah, regarde alors, ça sera le sujet du mois prochain. Et ça dure pas très longtemps aussi, ça peut aussi t'aider. Je crois que ça fait 1h30 grand max. grand max. Tu peux même le regarder en plusieurs parties, un petit peu chaque midi, ou 20 minutes chaque soir avant d'aller te coucher.
Ouais, mais c'est gâché de regarder un film comme ça.
Ouais, c'est un petit peu dommage aussi.
Voilà, donc nos recos, c'est fini.
Et au lieu de regarder Qui a tué Sarah, regardez les Mitchell. Eh bien, c'est ainsi que nous terminons cet épisode. Je vous le dis, on a réussi à faire plus court.
Combien?
Là, on est à 1h17 d'enregistrement.
C'est un record.
C'est vrai.
Enfin, si, le tout premier.
Je sais plus. J'ai pas tous les temps d'épisodes en tête. Hein.
Quoi?
J'ai autre chose à penser. Dites-nous, en tout cas, vous, ce que vous avez pensé de ce format raccourci. On a hâte de connaître votre avis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux Twitter et Instagram et sur notre blog, bien sûr, plaid.fr. Et vous pouvez nous aider à être mieux référencés en nous mettant plein d'étoiles et n'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires. Et on se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Ciao, ciao.
Et merci à vous dans les oreilles.